Vous écoutez
RMC.
Vous avez vu ? Enfin, vous étiez au courant.
Oui.
Oui, vous étiez au courant.
Je ne vais pas vous mentir.
Vous n'allez pas me mentir, c'est rue de Romigny, là, à Paris, je crois.
C'est
le
ça.
Président de la République, c'est un café. Oui, c'est un café. Un café avec le Premier ministre, Jean Castex. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont en train de se dire.
Ah, ben, tous.
Vous le savez ? Non, Gabriel. Non, non, Gabriel Attal, vous, non.
Mais en
non,
tout cas,
vous êtes certain, vous êtes certain.
En tout cas, elles font plaisir, ces images. Pas uniquement pour le président et le Premier ministre, mais ce qu'on voit depuis ce matin.
C'est un peu de la com, quand même.
Non, mais ce qu'on voit depuis ce matin, ces images des Français qui retournent sur leur terrasse, et puis de tous ces Français qui travaillent dans les restaurants, les bars, qui peuvent recommencer à travailler, ça fait plaisir.
Voilà. Oui, ça fait plaisir, mais c'est une bonne opération de communication, normale.
Bah, vous savez,
oui, logique. Oui,
c'est important, c'est aussi un jour symbolique. Vous savez, aujourd'hui, c'est le plus grand pas qu'on fait vers la vie d'avant depuis plus de 6 mois. C'est extrêmement important ce qui se passe. C'est des centaines de milliers de Français qui peuvent recommencer à travailler, qui étaient empêchés de travailler. Puis c'est la vie sociale aussi qui peut reprendre sur les terrasses de nos cafés et puis dans nos cinémas, dans nos théâtres.
Vous êtes impressionné là, non ? On voit le président de la République en train de discuter avec un serveur du café. Vous connaissez ce café ?
Alors, je ne sais pas où
non,
c'est.
Non, je ne sais pas où c'est. Rue de Miromesnil,
je crois. Je reconnais un peu la place Beauvau, pas très loin. Donc
oui, c'est pas très loin de l'Élysée, de la place Beauvau. Oui, le président de la République, le Premier ministre, sont en train de discuter, si j'ai bien compris, avec le serveur ou propriétaire du café. Voilà, avec cette journée importante, optimisme, envie et prudence en même temps, Gabriel Attal.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas se priver de se réjouir.
Oui.
Parce qu'on revient de loin.
Oui. Revient de loin et rien n'est terminé.
Et rien n'est terminé.
Ne l'oublions pas.
Il faut rester vigilant. Il ne faut pas baisser la garde. C'est pour ça qu'on a un calendrier de réouverture qui est prudent. C'est réouverture prudente, réouverture confiante. Voilà. On fait les choses progressivement par étapes, mais il ne faut pas se priver de se réjouir parce que la réalité, c'est qu'il y a encore un mois, deux mois, on était dans une situation qui était extrêmement difficile. Et d'ailleurs, moi, je me réjouis aussi, je le dis, parce que le choix qu'on a fait et qu'a fait le président de la République avec les mesures qui avaient été annoncées fin mars, c'est le choix de faire confiance à la responsabilité des Français. Vous vous souvenez, quand on avait annoncé ces mesures, un certain nombre de gens dans l'opposition nous ont dit « Mais attendez, c'est pas un vrai confinement, vous dites aux gens qu'ils peuvent sortir, vous leur faites confiance, ça va pas marcher vos mesures. » Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Que la situation s'est améliorée très nettement, qu'elle continue à s'améliorer. Donc on a eu raison de faire confiance à la responsabilité des Français.
Je regarde le président de la République, pas de masque, donc on va pouvoir sortir, s'installer en terrasse sans masque.
Alors vous connaissez les règles dans les restaurants, c'est important de les donner pour les personnes qui nous écoutent. Effectivement, quand vous êtes attablé et que on vous sert quelque chose à boire ou à manger, vous pouvez retirer votre masque.
Et pour discuter aussi, on peut discuter sans masque.
Quand vous êtes
en terrasse d'un café.
Quand vous êtes en train de boire, par définition, Mais les règles, elles ont été données. Il y a le port du masque.
Parce que d'autres convives portent le masque.
Vous voyez, le monsieur, son café lui avait pas encore été servi, donc j'imagine qu'il va l'enlever son masque pour boire son café, sinon ça va être compliqué.
Oui, non, mais ça, on est bien d'accord.
Mais voilà.
On est bien d'accord. D'ailleurs, le masque. J'ai une question à propos du masque. Est-ce que le masque sera bientôt... est-ce que nous serons démasqués bientôt ? Est-ce que bientôt, nous n'aurons plus besoin de masques à l'extérieur ? Est-ce que vous avez vu que New York démasqué ?
En tout cas, en extérieur,
En extérieur,
C'est évidemment le sens de l'histoire et de la vaccination.
Avant l'été ?
De plus en plus de Français.
Avant l'été ?
Bah on l'espère. On espère.
Non, mais on l'espère. Mais
si ça continue comme ça
avant l'été,
si ça continue,
on tombe le masque.
Si ça continue à s'améliorer, probablement qu'à l'été, je ne sais pas vous dire exactement quand. D'ailleurs, Olivier Véran, qui était sur votre antenne lundi soir, ne l'a pas dit. Et moi, je ne peux pas en dire plus que lui. Mais évidemment, dès qu'on considérera que c'est raisonnable et responsable de dire qu'on peut retirer son masque en extérieur, on le fera.
Donc nous passerons l'été sans masque.
Tout le monde en a marre du masque, ça c'est sûr. Ouais.
Nous passerons l'été sans masque.
On l'espère.
On l'espère.
On l'espère fortement. Il faut que ça continue à s'améliorer. C'est aussi pour ça qu'il faut continuer à être vigilant.
Oui,
faire des efforts.
Bien sûr. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. Peut-être que le président de la République et le Premier ministre abordent les sujets que nous allons aborder tous les deux.
On a un conseil
nous
de allons défense rester avec... à 9h.
Ben oui, vous avez un conseil de défense tout à l'heure. Nous allons rester en image avec le président de la République et le Premier ministre. On ne sait jamais. On sait. Non, ils s'entendent bien. Tout va bien.
Ah oui, c'est
ils vont pas se fâcher là et quitter la table. Non, bon d'accord. Gabriel Attal, les soldes prévus du 23 juin au 20 juillet, décalage ou pas ?
Ça sera décidé d'ici à la fin du mois. Il y a eu une réunion importante hier qui a eu lieu à Bercy avec
mon collègue. C'est pour ça que je vous pose la question.
Mon collègue Alain Griset, qui est ministre chargé des PME, a rencontré les responsables des fédérations, des commerces, de l'habillement, pour échanger avec eux sur ce sujet, pour recueillir leur avis. Vous avez certaines fédérations qui disent on souhaite reporter les soldes, comme ça avait été fait l'an dernier. Puis vous en avez d'autres qui disent c'est important pour nous que les soldes soient maintenus à la date prévue, c'est-à-dire le 23 juin. Donc il a recueilli tout ça. Il va y avoir une réflexion et sans doute d'autres échanges dans les jours qui viennent. Et d'ici à la fin du mois, il y aura une décision qui aura été prise, c'est-à-dire d'ici à la fin de la semaine prochaine.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura décalage des dates?
Très franchement, la décision n'a pas été prise.
Donc, pas été prise.
Et vraiment, ce que je comprends, Jean-Jacques Bourdin, c'est aussi pour ça que c'est parfois compliqué de faire des choix politiques, c'est qu'il y a des opinions qui sont différentes selon les fédérations ou les associations de commerçants. Et donc, il faut chercher le consensus le plus large possible.
Je regarde l'écran en même temps.
Mais
pour voir ce qui se passe. Dites-moi, des contrôles, est-ce qu'il y aura des contrôles? Parce qu'il y a des jauges sur les terrasses, il y a des jauges dans les cinémas, il y a des jauges dans les commerces qui ouvrent aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de contrôles aujourd'hui?
Il va y avoir des contrôles, évidemment.
Et puis couvre-feu à 21h.
Couvre-feu à 21h. Il va y avoir, évidemment, pour le couvre-feu, des contrôles qui vont se poursuivre le soir après 21h et jusqu'à 6h du matin. Et puis, évidemment, qu'il y a des contrôles dans les établissements recevant du public pour l'application des protocoles sanitaires. Il y aura évidemment des contrôles. Après, vous savez qu'à chaque fois qu'on a mis en place des mesures nouvelles, on a toujours fait attention à avoir quelques jours de tolérance, parce que la réalité, on ne va pas arriver tout de suite et sanctionner alors que les règles sont en train de se mettre en place, que les choses s'appliquent.
Oui. Le Premier ministre est en train d'essayer de convaincre le Président de la République, apparemment. Je ne sais pas sur quel sujet. J'ai quelques sujets. La discothèque, les discothèques, soirée test. Il va y avoir une soirée test.
C'est une possibilité.
Non, mais c'est une possibilité une réalité.
Ça n'a pas été acté. Moi, il me semble que ce serait une bonne idée de le tester. En tout cas, ce qui est acté, c'est que à la mi-fin juin. Dans la deuxième partie du mois de juin, les patrons de discothèques en sauront davantage sur leur réouverture. Moi, je vais vous dire, je les comprends. Ça fait plus d'un an qu'ils sont fermés. C'est le seul lieu, je crois, qui n'a jamais rouvert depuis le début de la pandémie. Et donc, c'est extrêmement difficile pour eux. Il y a aussi beaucoup de Français qui ont envie de pouvoir retourner en boîte, comme on dit. Et donc, il faut qu'on puisse donner des perspectives. C'est aussi un lieu où on sait que c'est plus à risque pour le virus, parce que la réalité, c'est que quand vous allez en discothèque, c'est quand même plutôt pour avoir des contacts avec les autres, et que quand vous avez un peu bu, vous êtes peut-être moins attentif au respect des gestes barrières. Et donc, c'est des endroits en lieu clos où le virus peut circuler. Et donc, il faut être prudent.
Passe sanitaire, 1000 personnes, c'est cela? Manifestation de plus de 1000 personnes?
C'est ça, les salons, les grands concerts, les grandes foires. C'est
passe sanitaire d'attestation de vaccination, attestation de non-maladie, test négatif, attestation de guérison.
C'est ça,
le passe sanitaire. Passe sanitaire uniquement pour ces rassemblements de plus de 1000 personnes.
Oui, c'est le choix qu'on a fait.
Uniquement.
C'est typiquement de ne pas vous demander un passe sanitaire pour aller boire un café en terrasse en bas de chez vous. Voilà, l'important, c'est d'être pragmatique, de l'utiliser cet outil là où c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire dans les lieux qui brassent beaucoup de monde.
Oui. Est-ce qu'il y aura harmonisation en Europe?
Ah oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau européen.
C'est décidé. Harmonisation en Europe.
Je crois que le Parlement européen doit se prononcer prochainement. Donc moi, je respecte les institutions, mais c'est certain. Et notamment pour les déplacements entre les différents pays.
Et tests gratuits dans toute l'Europe cet été?
Alors ça, pour le coup, j'ai pas d'informations sur ce sujet.
Il y a des réunions importantes hier soir.
En France, les tests sont gratuits. Et c'est important de le dire, la France est un des seuls pays à avoir cette politique de tests gratuits. Quand je dis gratuit, c'est la sécurité sociale qui paye, donc quelque part c'est les Français. Mais en tout cas, on ne vous demande pas de frais quand vous allez vous faire tester. Et ça, c'est extrêmement important en France, en tout cas qu'on le maintienne tant que l'épidémie se poursuit.
Est-ce que le plan de relance sera renforcé?
Il va y avoir un deuxième temps de la relance.
C'est-à-dire un premier plan de relance et un deuxième plan?
Quand je dis deuxième temps de la relance, c'est qu'il y a un plan de relance qui a été annoncé à 100 milliards d'euros.
Exact.
Pour relancer notre économie.
Exact.
Je vais vous dire, ce plan, il démarre très fort et il démarre très bien.
Bon.
Il y a déjà 30 milliards qui ont été dépensés. C'est des Français qui rénovent leur logement, qui ont une aide jusqu'à 20 000 euros par mois, MaPrimeRénov. C'est des entreprises qui développent des chaînes de production. Et donc, pour répondre à votre question, quand je dis qu'il y a 30 milliards sur les 100 milliards qui ont été engagés, ça veut dire qu'il reste 70 milliards de ce plan engagé. Et donc, quand je dis deuxième temps de la relance, c'est qu'il va y avoir un travail pour regarder si il faut de nouvelles priorités, comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer.
Mais pas plus de 100 milliards.
Aujourd'hui, c'est pas prévu, mais évidemment, on adaptera si c'est nécessaire. En tout cas, il faut une nouvelle mobilisation.
Aujourd'hui, 100 milliards et c'est tout.
Aujourd'hui, c'est 100 milliards.
Quoi qu'il en coûte, c'est 100 milliards, quoi. Bah, pour la relance, je parle. Je parle
pour
de la relance.
Relance, hein. Pour
je
la
parle
relance,
de la relance, ouais. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que il y aura des chèques consommation? Est-ce qu'il y aura des chèques pour les plus modestes ou, dans le cadre de ce plan de relance?
On a beaucoup agi depuis plus d'un an, depuis le début de cette crise,
oui,
pour garantir le pouvoir d'achat et donc la consommation de tous les Français. Le chômage partiel, ça a quand même permis de garantir le salaire et de verser le salaire. Et encore aujourd'hui, vous avez plusieurs millions de salariés qui sont en activité partielle de longue durée. Et donc, c'est l'État qui finance au moins une partie de leur salaire pour qu'ils puissent garder leur pouvoir d'achat. Et pour les plus modestes, les plus précaires, je rappelle que à deux reprises, on a versé des aides exceptionnelles en plus des minima sociaux dont bénéficient les plus précaires. Une famille qui est au minima sociaux avec deux enfants, elle a reçu il y a un an 400 euros en plus de ses minima sociaux. Elle a eu son allocation de rentrée scolaire renforcée de 200 euros en août dernier. Et en décembre, elle a reçu à nouveau 400 euros. Ça fait 1000 euros. Donc, évidemment, on est au rendez-vous pour accompagner le pouvoir d'achat de ceux qui en ont besoin dans notre pays. Et on va continuer cette action.
2018, Emmanuel Macron promettait une loi sur la dépendance, les personnes âgées. Il va y avoir une réunion demain à Matignon importante. Est-ce qu'un projet de loi sera discuté à l'Assemblée nationale après l'été?
Alors, il y a une réunion, vous l'avez dit, c'est un engagement du président de la République.
Qui sera tenu avant la fin du quinquennat.
Il y a eu depuis la crise, crise sanitaire.
Oui. Et donc, ça a retardé.
Ça a retardé. Et forcément, il reste un peu moins d'un an.
Oui.
Il y a un agenda parlementaire qui est contraint. Donc il y a des arbitrages à faire, des choix à faire. Ce qui est certain, c'est que là, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en situation d'avoir un projet de loi qui est prêt pour être examiné. Ensuite, il y aura une décision qui sera prise.
Le projet de loi sera prêt et donc probablement examiné après l'été.
En tout cas,
c'est la volonté du président de la République ou pas?
Évidemment, notre volonté, c'est d'avancer pour mieux prendre en charge la dépendance et garantir l'autonomie des personnes âgées.
Est-ce qu'avant la fin du quinquennat, il y aura un projet de loi sur la dépendance?
Je veux dire, le projet de loi sera prêt. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il sera examiné au Parlement.
Oui, mais il sera prêt.
Il sera prêt.
Proposé et présenté.
Il sera prêt.
Voilà. Et il sera présenté.
Évidemment qu'on annoncera les mesures qu'on veut prendre et ce qu'on envisage de faire. Concrètement, c'est quoi?
Oui.
C'est dire qu'il faut mieux prendre en charge les personnes âgées dans notre pays.
Oui.
Arriver à ce fameux tournant du domicile, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont envie de pouvoir rester chez elles plutôt qu'aller en maison de retraite. Et donc, revaloriser les métiers et les carrières des personnes qui accompagnent les personnes âgées chez elles. Revaloriser aussi les métiers des personnes qui interviennent dans les maisons de retraite. Tout ça, c'est un enjeu très fort et donc on y travaille. C'est ma collègue Brigitte Bourguignon qui est ministre déléguée chargée de ce sujet, qui est activement à la tâche.
Autre événement aujourd'hui, ce rassemblement de policiers devant l'Assemblée nationale. Alors, j'ai plusieurs questions à ce propos. Gérald Darmanin s'y rendra, le ministre de l'Intérieur. N'y a-t-il pas confusion tout de même, Gabriel Attal? Voilà le ministre de l'Intérieur qui va se rendre devant l'Assemblée nationale pour partager les revendications des policiers qui exigent quoi? Un durcissement des lois. Confusion.
D'abord, vous savez, moi j'ai entendu...
Et la séparation des pouvoirs, où est-elle?
D'abord, moi j'ai entendu les responsables syndicaux de la police, en tout cas une bonne partie d'entre eux, dire que ça n'était pas une manifestation syndicale, mais une marche citoyenne, pour soutenir nos policiers dans leur action du quotidien, alors qu'ils sont régulièrement agressés, attaqués, et qu'il y a, un manque de respect d'un certain nombre de personnes vis-à-vis de nos policiers.
Vous avez raison, sauf qu'il va y avoir des discours de policiers, des discours syndicaux. Est-ce que vous pensez que dans ces discours syndicaux, il n'y aura pas de revendications?
Mais il y aura probablement des revendications, Jean-Jacques Bourdin. Mais moi, je vais vous dire, pour moi, le ministre de l'Intérieur, qui est le premier policier de France, comme on dit, qui soit avec ses troupes, avec ses hommes, dans un moment où il y a une émotion très forte qui les saisit, non pas seulement eux, mais tous les Français, après ce qu'on a vu, après ce qui est arrivé à Madame Montfermé, à Rambouillet, qui a été tuée dans son commissariat par un terroriste islamiste, ce qui est arrivé à Monsieur Masson, qui a été tué en opération alors qu'il faisait un contrôle anti-drogue. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a des policiers qui sont dévoués pour protéger les Français. Et d'ailleurs, qui savent qu'ils prennent des risques quand ils interviennent pour protéger les Français. Mais la réalité aussi, c'est que depuis des années, les agressions ont augmenté. En 15 ans, elles ont doublé les agressions contre les policiers.
Oui.
Il y a des refus d'obtempérer qui se multiplient aussi.
C'est ce que disent aussi les policiers. Vous dites la même chose.
Mais bien sûr qu'on dit
la même chose. Vous dites la même chose. Mais les policiers demandent quoi? Tous, les syndicats, tous les syndicats de police, des peines planchées ou peines minimales pour les agresseurs des forces de l'ordre. Alors oui ou non?
Alors pas tous, Jean-Jacques Bourdin.
Presque tous.
Non, mais j'entends aussi des responsables syndicaux de la police qui disent eux-mêmes que les peines planchées, quand elles ont été mises en place sous Nicolas Sarkozy à l'époque, n'ont pas fonctionné.
Donc vous ne... pas question de remettre des peines planchers au minimum.
Mais pourquoi Jean-Jacques Bourdin? Parce que quand vous regardez la durée moyenne des peines qui étaient prononcées à l'époque des peines planchers, elle était inférieure à la durée moyenne des peines qui ont ensuite été prononcées quand on a levé les peines planchers. Donc on voit bien que c'est pas ça la solution. La solution, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la justice soit plus efficace. C'est pour ça qu'on renforce ses moyens. Il y a une augmentation historique du budget de la justice. On a franchi le cap symbolique des 9000 magistrats. On recrute 2000 personnels supplémentaires dans notre justice pour que ça soit plus réactif et qu'il puisse y avoir une réponse pénale plus rapide. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut renforcer les peines. Et ça, c'est une demande qu'ils ont. Évidemment, elle a été entendue. Et donc très concrètement, vous le savez, la période de sûreté pour les crimes contre un policier ou un gendarme sera portée à 30 ans. Oui. Les rappels à la loi pour les plus petits délits qui faisaient souvent, on va le dire, rire les voyous. Ils rigolaient quand ils ressortaient en disant « je me suis pris un rappel à la loi ». Ben, c'est supprimé et ça sera remplacé par des vraies peines, notamment des travaux d'intérêt général et évidemment des mesures alternatives.
Ils rigolent toujours quand ils ressortent au lendemain d'un acte de délinquance, hein. Bien souvent, mais, malheureusement.
C'est pour ça qu'on renforce la réponse pénale.
Bon, Gabriel Attal, la violence après le drame d'Ivry, vous avez vu ce qui s'est passé avec cette adolescente de 17 ans qui a été poignardée, tuée par un gamin de 14 ans. Faut-il rendre pénalement, je dis bien pénalement, hein, pas civilement, pénalement responsables les parents de mineurs auteurs d'infractions? C'est ce que propose un député de La République En Marche.
Oui, il y a un député qui a fait cette proposition. Oui. Elle n'est pas retenue par le gouvernement.
Elle n'est pas retenue.
Aujourd'hui, vous avez un principe de notre droit, c'est que vous êtes responsable des actes que vous commettez. Vous pouvez être considéré et être reconnu complice. Ça peut exister. Mais le principe quand même intangible de notre droit, c'est que vous êtes responsable des actes que vous commettez. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas mieux responsabiliser les parents? Évidemment non. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le dire. Les parents, évidemment qu'ils ont une responsabilité dans ce que font leurs enfants. C'est important de le dire et c'est important de le répéter. L'éducation nationale a aussi un rôle très important. Il y a un autre projet qui, moi, me tient à cœur, c'est moi qui l'ai créé, c'est le service national universel qui se déploie. Quand on parle de jeunesse...
On en est où, d'ailleurs?
Il se déploie. En juin, vous aurez plus de 20 000 jeunes qui feront leur service national. Quand j'ai lancé, il y en avait 2 000, donc ça prend bien son
emploi. 20 000 en juin.
Oui, c'est quoi? C'est des jeunes qui vont se retrouver pendant plusieurs semaines encadrés par des policiers, des gendarmes, des militaires, des associatifs, des membres de l'éducation nationale. Autour de quoi? Autour des notions de droit et devoir du citoyen. Autour des notions d'autorité. Autour des notions de valeur de la République. C'est ce qui remplace finalement ce qu'était le service militaire à l'époque. C'est pas un service militaire, mais on revient à ce moment de creuset républicain.
Un mot sur les régionales. Fusion, alliance avec Xavier Bertrand au second tour dans les Hauts-de-France, si nécessaire.
Là, on est dans le premier tour.
Oui.
On a Laurent Pietraszewski
qui mène
la liste de la majorité présidentielle avec Éric Dupond-Moretti.
Imaginons qu'il arrive, qu'il ne soit pas qualifié. S'il est qualifié, il se maintient ou pas?
Mais attends, moi, tant que le premier tour n'a pas eu lieu, je peux difficilement dire ce qu'on fait au deuxième tour, Jean-Jacques Bourdin. Maintenant, je vais vous dire très clairement.
Vous pouvez dire aux électeurs, si nous faisons plus de 10%, nous maintiendrons notre liste. Vous pouvez le dire.
Ce que je vais vous dire, c'est que pourquoi on présente une liste?
Oui.
On présente une liste pour que la relance économique du pays qu'on engage bénéficie à tout le monde.
Mais moi, je vais y venir.
Je vais y venir. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder au soir du premier tour? Quels sont les scores? Quel est le rapport de force entre les différentes listes? Et qu'est-ce qui garantit le plus que le futur exécutif régional tienne compte de nos priorités en termes de relance économique pour que dans les Hauts-de-France comme ailleurs...
Et ne bascule pas au Rassemblement national.
Pour que dans les Hauts-de-France comme ailleurs, le plan de relance soit une réalité. Et je vais vous dire, notre logique, ça a toujours été le dépassement politique. Et donc évidemment que si on considère que c'est nécessaire et que c'est utile qu'il y ait une alliance, évidemment qu'on regardera cela.
On ouvrira cette alliance.
On proposera, dans les cas où on sera en tête, d'ouvrir nos listes pour faire des alliances, bien sûr.
L'immigration, on a beaucoup parlé d'immigration ces dernières heures, avec ce qui se passe au Maroc et dans l'enclave espagnole de Ceuta, mais est-ce qu'il va y avoir une initiative du gouvernement en matière d'immigration? Parce que beaucoup parlent d'immigration zéro, de moratoire sur l'immigration, de référendum sur la politique migratoire. Est-ce qu'il va y avoir une initiative du gouvernement, président de la République?
Il y a deux choses. Un, il y a la loi qui a été votée en 2018, loi asile immigration. Je me souviens, j'étais parlementaire à l'époque, qui est une loi qui donne des moyens très puissants, très concrets pour réduire les délais et pour faire en sorte que soient mieux exécutées les obligations de quitter le territoire et l'intégration des personnes qui ont vocation à rester en France. Ça, c'est le premier point. Et je vais vous dire, avant la crise sanitaire, qui a quand même tout perturbé, ça a produit des résultats. Le nombre de personnes éloignées entre 2018 et 2019 a augmenté dans notre pays. Il y a moins de naturalisation en France aujourd'hui que dans les quinquennats précédents. Deuxième chose, c'est la question des frontières et la question de l'espace Schengen.